Ce matin, initialement, j'avais l'intention de parler avec vous autour du temps. Et je voulais commencer en te demandant à quoi consacres-tu ton temps ? J'aurais pu employer un ton accusateur et puis te faire prendre conscience que tu gâches beaucoup de temps. Si je regarde à ma vie personnelle, je consacre bien du temps à des futilités, des occupations, des distractions, des choses des fois qui sont très futiles. Et je crois qu'il est bon de temps en temps pour toi de t'arrêter et de t'interroger en regardant ta vie pour voir s'il n'y a rien à y retirer. Je vous partage ça parce qu'en ce moment, on est en plein déménagement. Et donc, c'est l'occasion pour nous de ranger, de trier et de jeter toutes les choses que nous avons emmagasinées et qui prennent tant de place dans notre maison. J'ai pensé à vous, Philippe, parce que du coup, je me suis dit, comme vous déménagez souvent, vous devez régulièrement faire ce genre de choses. Et du coup, j'ai pensé à vous. Et je vais dire parce que c'est plus difficile pour moi que pour ma femme, mais je me rends compte ô combien il est difficile de me délester de toutes ces choses, alors que beaucoup d'entre elles ne me servent même pas. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune homme riche qui vient se présenter devant Jésus et qui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle. Alors, qui est-ce qui a une Bible ? Un jeune avec un téléphone, avec une Bible connectée ? Il y a quelqu'un qui a ça là-bas au fond ? Esther, t'as pas ça sur ton téléphone ? Ouais, alors vas-y, tu peux me lire Matthieu 19, du chapitre 16 au verset 19, verset 16 à 24, s'il te plaît. Bien fort, hein ? Amen. Viens et suis-moi. Se délester, c'est un principe que l'on peut appliquer du coup à ses biens, mais aussi à ses occupations. Se délester de ses biens, se délester de ses occupations futiles afin de suivre Jésus. Facile ? Pas si facile que ça. Le pire dans mon déménagement, c'est qu'on a emménagé en attendant dans le petit appartement de mon père. Donc vous pensez bien qu'on a dû faire de tri et on est arrivé là-bas, on a pris le strict nécessaire. Et je me rends bien compte qu'en fait, au final, il ne me manque rien. J'aurais bientôt pu abandonner la maison là-bas avec tout ce qu'il y avait dedans, sans que rien ne me manque vraiment. Et pourtant, malgré tout, quand je retourne dans cette maison, une fois que je suis devant ces affaires, je me dis, mon esprit conservateur qui dit, non, mais ça, tu peux le garder, ça coûte encore cher, ça. Ça, tu vas t'en servir un jour ou l'autre. Mais, voilà, ça devient difficile parce que du coup, on doit quand même faire du tri. Donc faire le tri dans ses affaires, faire le tri dans sa vie, dans ses occupations, dans ses loisirs, dans ses fréquentations, c'est pas toujours facile. Et grâce aux voyages et aux valises qu'on doit faire, vous savez que quand on fait ses valises, on est toujours en train de regarder s'il nous manque quelque chose, qu'est-ce que j'ai pu oublier, qu'est-ce que j'ai pas, etc., machin et tout. Je me suis rendu compte un jour que, en fait, à partir du moment où moi j'étais là, il ne me manquait rien. Alors je dis pas ça pour que vous m'emmeniez avec vous la prochaine fois dans vos valises, mais je dis ça pour que vous compreniez un principe important. À partir du moment où vous êtes là, bah, il ne vous manque pas grand-chose. Je voudrais vous imaginer qu'on pourrait simplement, comme un peu un bras, je viendrai vous chercher pendant votre sommeil en pyjama, hop, et je vous prends pour vous mettre ailleurs, dans un pays inconnu, dans un endroit inconnu. Je suis sûr que quand tu vas te réveiller, eh ben, la vie elle continuera pour toi et tu vas savoir te débrouiller. C'est un peu pourquoi j'aime les émissions comme Koh-Lanta ou The Island, où est-ce qu'on est seul sur une île déserte, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces hommes et ces femmes, avec pas grand-chose, eh ben, ils arrivent à se débrouiller. Et c'est en quelque sorte ce que dit Jésus, d'une autre manière, à ce jeune homme. Et il dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il lui dit en fait ce principe. À partir du moment où tu me connais moi, où tu m'as moi, il ne te manque rien. Tu as tout. Voilà, simplement. L'autre jour, on parlait avec mon beau-frère Aurélien et il nous disait qu'en fait, Des fois, ils ne comprenaient pas parce que les chrétiens ne mettaient pas toujours vraiment en pratique ce qu'ils disaient. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous dit quelque chose dans Matthieu 6. Je vais demander à quelqu'un d'autre de m'assister et de bien vouloir prendre Matthieu 6.
Ça marche aussi avec les bibles papier. Hein.
Oui, ça marche avec les bibles papier. Non, mais j'ai fait le numérique, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre une bible papier. Hein. Donc, Matthieu 6, qu'est-ce qu'il a? Samuel, il l'a. Matthieu 6, du verset 25 à 34.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Donc la discussion, elle tournait autour de ça, justement, où des fois les chrétiens, ils n'appliquaient pas forcément la parole de Dieu, et puis notamment aussi, justement, sur les demandes qu'on faisait au Seigneur, puisque le Seigneur, dans sa parole, nous dit que nous n'avons besoin de rien, enfin de rien demander parce qu'il sait ce dont nous avons besoin et le plus important c'est de rechercher la justice et le royaume de Dieu. Donc notre Père il sait de quoi nous avons besoin avant même qu'on lui demande, donc on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là et ce qui doit davantage nous préoccuper du coup c'est la justice et le royaume de Dieu. Viens et suis-moi te dit Jésus ce matin, laisse le reste, délaisse-toi et suis-moi. Marthe et Marie comme exemple je prendrai qui des deux a choisi la bonne part? Marie qui était au pied de Jésus. Cet enseignement est premièrement pour moi parce que je suis plus Marthe que Marie. Je suis plus à m'affairer à des choses, à des futilités peut-être et tout, justement, au lieu de me mettre au pied de Jésus. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, nous dit le psaume 90, verset 12. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Les Nègres Marrons. Je vais vous passer un petit extrait.
On n'est pas le même destin. Le temps passé, passé, passé. Beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps...
Donc les Nègres Marrons nous disent: le temps passe et passe et passe. Et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler vieilles histoires d'avant comme si on avait 50 ans. On fait le bilan. Quel est le bilan de ta vie? Nous avons perdu récemment une sœur qui a été pour moi un modèle, un témoignage de fidélité à Dieu et de dévouement dans la prière. Je me sens comme porté par cette sœur. Un exemple de simplicité et de consécration à Dieu. Le verset qui a été choisi par notre pasteur, « Christ est ma vie ». Philippiens 1, verset 21. Voilà son bilan, voilà ce qu'elle nous laisse en mémoire. Si tu devais faire le bilan de ta vie, quel serait-il? Je m'adresse ici davantage aux personnes qui ont un certain âge, parce que vous pouvez faire le bilan, étant donné que vous êtes déjà un peu plus avancé dans la vie. Mais toi qui es jeune, vois ça comme un objectif. Quel bilan voudrais-tu que l'on dresse à la fin de ta vie? Vous connaissez cette image des bougies sûrement? Il y en a une grande, une moyenne et une petite. Laquelle représente les enfants? La petite, on aurait tendance à dire la petite parce qu'ils sont plus petits que nous. Mais non, c'est la grande parce que c'est à eux qu'il reste le plus de vie. Une bougie, le temps coule, le temps s'écoule, et pour eux, il reste beaucoup plus de temps que pour n'importe qui d'entre nous. Enfin, pas n'importe qui, mais bon, vous comprenez l'image. Donc, aux jeunes, vous avez encore de la vie devant vous, voyez ça comme un objectif. Parce que la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La dernière fois, Patrick me disait « Il n'est jamais trop tard pour faire le bien ». Non, il n'est jamais trop tard pour faire le grand ménage et faire du vide, mais n'attendez pas le printemps pour faire le grand ménage. Je crois d'ailleurs que c'est une discipline à s'imposer régulièrement. Tous les 3 ans, ça me semble pas mal. Mais je pense que, voilà, nous, ça faisait 5 ans qu'on était dans la maison. Il y avait déjà beaucoup. Et je pense qu'en fait, il faudrait faire ça annuellement, mensuellement, hebdomadairement, quotidiennement, je dirais même. Éphésiens 5, versets 15 à 17. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139. Du coup, je vous laisserai quelques conseils pour ne pas perdre votre temps. Recherche dans ta vie ce qui prend ton temps. Quelles sont tes occupations, tes distractions, et fais-en un bilan. Y a-t-il des choses que tu accumules ? Deuxième chose, y a-t-il des choses que tu accumules, des richesses auxquelles tu tiens trop et qui t'empêchent d'avancer et de suivre Jésus ? Fais-en le tri, jette. Troisièmement, accorde-toi des temps. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Applique ce principe à ta vie. Ponctue ta journée, ta vie de temps. Temps de travail, temps de loisirs, temps de pause, temps spirituel. Car oui, tous ces temps bien répartis feront de ta vie une vie de consécration à Dieu. Je dois avouer que j'ai un petit côté légaliste qui me dit que ma relation avec Dieu, elle devrait se mesurer en temps. Passer avec le Seigneur ou en choses faites pour lui, plaire. Un peu comme si j'avais ma montre ici, ma montre chronomètre à mon poignet, et que dès que je faisais quelque chose en rapport avec Dieu, boum, j'appuie dessus. Temps de prière, bam. Temps de lecture, bam. Évangélisation, bam. Total de la semaine, 2h46 minutes sur les 168 heures de la semaine. Pas grand-chose au final. Mince, la semaine prochaine, je ferai mieux, je remets le compteur à zéro. Allez hop. Est-ce que c'est réellement ainsi que l'on peut évaluer notre proximité avec Dieu? Non, parce que notre relation avec Dieu ne doit pas se mesurer en termes de temps, mais plutôt en termes d'intensité. Ma relation avec Dieu est-elle saine à partir du moment où chaque matin je me lève, j'ai un temps de lecture de 30 minutes, puis un temps de prière de 10, et avant d'aller me coucher, je reprends 10 minutes pour lire un commentaire et prier de nouveau? Si j'applique ce principe à ma relation avec une personne, mon épouse par exemple, mes enfants ou des amis, est-ce que tu penses que cela peut marcher de la même manière? Non, parce qu'une relation a besoin d'imprévus, de nouveautés, de fun. Et on ne peut pas dire que c'est le temps que je passe avec mon épouse qui va définir ma relation. C'est plutôt parce que j'aime mon épouse que je veux passer du temps avec elle. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Le temps que je passe avec Dieu ne définit pas ma relation avec lui. C'est parce que j'aime Dieu que je vais passer du temps avec lui. Je vous donnerai encore un exemple. Si je trouve le journal intime de mon épouse et que je me mets à le lire, est-ce que grâce à ça, j'aurai une relation plus profonde avec elle? Non, pas directement. Parce que ce qui va changer, c'est de connaître ses pensées, ses ressentiments, et plus encore, ce qui va changer la relation avec mon épouse, c'est l'écho que ses paroles vont donner en moi. C'est ce que je vais faire une fois que je sais ce qu'elle aime, que je sais ce qu'elle n'aime pas. Qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui la gêne, etc. Vous comprenez un petit peu, je suppose. Mais donc, le savoir ne conduit pas à la connaissance. J'ai beau tout savoir d'une célébrité parce que je lis beaucoup de livres sur elle, de magazines, etc. C'est pas pour ça que je la connais, personnellement. Ce qui fait que je connais bien une personne, c'est la relation profonde que je vais avoir avec elle et l'écho de ses paroles, de sa vie en moi. Alors pour illustrer un peu mes propos, et puis pour que vous suiviez encore un petit peu là, je voudrais faire un petit jeu avec vous. Donc on va jouer au jeu des échos. Donc je vais faire « ohé » par exemple, ou « eh oh », vous allez répéter. « Eh
oh !
Eh oh !
Eh
oh ! Super ! Vous connaissez aussi ce chant qui dit «
entendez tous
l'écho » qui dit
«
soyons tous unis ».
Soyons tous unis.
Soyons tous unis.
Soyons tous unis.
Merci pour votre participation. Vous avez de très belles voix. Donc le deuxième point que j'aimerais aborder maintenant avec vous aussi, c'est quel écho en vous? Comme je disais, ma relation avec mon épouse va dépendre de l'écho de ses paroles en moi. Ma relation avec Dieu va dépendre aussi de l'écho de ses paroles en moi. Quel écho? Les paroles que je vous ai dites ce matin auront-elles en toi? Quel écho la parole de Dieu a-t-elle en toi? Pour qu'il y ait un écho, il faut que le son soit répercuté. Il faut que le son touche quelque chose et rebondisse. Et ainsi, il me revient et ça produit un écho, ça produit une résonance, une réponse. Heureux ceux qui écoutent mes paroles et les mettent en pratique. Luc 11 au verset 28. Si je prends par exemple l'exemple de Noé qui a reçu une parole de Dieu lui demandant de construire une arche et pour qui ces paroles ont eu un écho, puisqu'il n'a pas décidé d'ignorer ces paroles, mais il a arrêté ses activités, son travail, sa vie de famille, ses loisirs, et il s'est mis à construire cette arche qui représente un boulot phénoménal. Imaginez aussi les gens de l'époque. Mais il nous fait quoi Noé là? Comment ça se fait? Il a tout arrêté, il laisse tout tomber, il commence à construire une arche, un truc énorme. Il devait rire de lui, il devait dire mais il est complètement fou Noé. Et quand Jésus a dit aux disciples, viens et suis-moi, qu'ont fait les disciples? Ils étaient en train de travailler, certains étaient pêcheurs en train de filer les filets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas attendu. Ils ont quitté leur travail et ont suivi Jésus. À l'inverse, certaines personnes, eux, décident de ne pas faire écho, comme le jeune homme riche de tout à l'heure, ou le jeune homme qui a demandé à Jésus « Laisse-moi aller ensevelir mon père, et je viendrai après. » Et donc du coup, on voit que la parole de Dieu a une résonance différente dans la vie des personnes, dans la vie des gens. Quelle résonance, quelle réponse la parole de Dieu a-t-elle dans la tienne? L'écho, c'est une réponse un peu immédiate. « Viens et suis-moi, te dit Jésus. » Donc si la parole de Dieu fait écho dans ton cœur, tu seras toi-même un écho à la parole de Dieu, comme une bougie qui s'allume, et ainsi tu pourras partager et devenir toi-même écho de la parole de Dieu. Oula. Il y a un exemple qu'on trouve dans Jean 1, versets 35 à 51, où la parole de Dieu, elle fait écho. On va le prendre, ce texte, Jean 1, versets 35 à 51. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Jean 1. Ouais. Allez, vas-y, tonton, va. Jean 1, 35 à 51.
Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et y suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Jésus leur dit, voyez, venez, leur dit Jésus, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jésus lui dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Maintenant, de plus grandes choses que celles-ci, tu verras. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Amen. Viens et vois. C'est mon invitation de ce matin. On voit là, ici, l'écho de la parole de Dieu dans ces personnes. Qui, Jean dit, voilà l'agneau de Dieu. Du coup, les disciples qui étaient avec eux, André, voient que c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Du coup, ça fait écho dans son cœur tout de suite. Lui-même va rentrer chez lui, va en parler à son frère, Simon, qui va faire écho aussi à Nathanaël, etc. Et donc, comme on le voit, comme un saute-mouton, la parole de Dieu est propagée comme ça, comme un écho qui rebondit. On ne se rend pas compte toujours de l'impact de nos vies sur les autres, mais nous avons un témoignage. Nos choix, nos décisions, nos paroles, nous influençons ainsi les gens qui nous entourent. L'autre jour, ma sœur va ouvrir à la porte un monsieur qui sonnait, et c'était le fermier qui passait avec ses légumes. Et il commence à lui dire, « Mais vous êtes protestant, vous, c'est ça ?» Alors, on ne sait pas de où il sait ça, je pense que c'est mon père qui doit lui témoigner, ou peut-être Philippe Debeuf, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma sœur, elle était un petit peu, elle s'est interrogée, quoi. « Oui, oui, parce que du coup, nous, on a des amis, ils sont aussi protestants, alors je me renseigne un peu, parce que je m'y intéresse, tout ça, etc. » Mais sans le vouloir, cette personne connaissait la maison, savait qu'à l'intérieur de cette maison, il y avait des protestants. Et donc, sans le savoir, notre vie, elle fait écho aussi, en le sachant ou en le sachant pas, bien sûr, volontairement ou involontairement. Mais donc, notre vie, elle illumine les autres un petit peu comme un brasier. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Notre vie, elle va illuminer les gens qui nous entourent. Et elle va se répandre ainsi comme un écho, la parole de Dieu. Et elle va brûler dans la vie d'autres personnes et illuminer leur cœur. Alors, quel écho la parole de Dieu aura-t-elle ce matin dans votre vie ? Quel écho votre vie aura-t-elle dans les gens qui vous entourent ? C'est la question que je vous laisse. Et je vous laisserai aussi, du coup, avec un dernier passage que j'ai lu ce matin aussi dans un clin d'œil de Dieu, j'appelle ça, dans ma petite étude du matin. Mais donc, il nous parle aussi de Simon-Pierre qui chute lorsque Jésus est emmené et qui va être crucifié. Et donc, il renie Jésus. Et Jésus, à la suite de quoi, lui dira trois fois, « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? » C'est la question qu'on se pose. Et donc, du coup, je voudrais prendre ça aussi parce que des fois, voilà, je vous ai dit, c'est jamais trop tard pour faire le grand ménage. Il n'est jamais trop tard pour aller de l'avant, pour faire bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est la question aussi que Jésus pose à chacun d'entre vous. « M'aimes-tu ? Suis-moi, viens et vois, on va ensemble. » Et au-delà même des difficultés que vous avez pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui ou que vous pouvez avoir dans votre vie actuellement, eh bien, le Seigneur vous pose encore cette question. Pierre, Jérémie, m'aimes-tu ? Et à la fin, il lui dit, suis-moi, suis-moi. Et on voit que Pierre sera un exemple aussi, il sera un exemple de témoignage, et il aura un écho, une résonance particulière dans la vie des gens. Et du coup, je souhaiterais pour vous que vous puissiez du coup, premièrement, faire un bilan de votre vie pour savoir à quoi vous consacrez votre temps, afin de pouvoir aussi, du coup, avoir cet écho au milieu de vous, au milieu des gens qui vous entourent, et donc, du coup, de pouvoir relayer cette parole que vous avez reçue un jour.